On va se gêner jusqu'à 18h. Pierre Bénichou, nous sommes à l'antenne.
Mais oui.
Christine O'Krent est là aussi. Jean-Marie Bigard. Caroline Diamant, Stevie Boulet, quelques mails sont tombés depuis le début de l'émission. Par exemple, quelqu'un qui tient tout, à soutenir Stevie
dans le mondial.
Dans les champions mondiaux.
Oui, parce qu'il dit il y a un cas où on peut effectivement dire comme il dit, c'est quand quelqu'un dit pour trouver un bon tapis, j'ai fait tous les mondiales moquettes.
Ça, c'est du soutien.
Là, dans ce cas-là, ça marche, vous voyez. Message pour Christine O'Krent, que j'ai vu à la télévision dans une rediffusion de ses débuts télévisés. Je la félicite, car elle est beaucoup plus jolie et pleine de charme maintenant qu'il y a 20 ans. Mmh. Vous vous rendez compte un peu?
Oui, bah, donc dans 20 ans, ce sera formidable, n'est-ce pas, Stevie?
Si ça continue comme ça, oui.
À l'écoute de votre émission, toujours agréable, souvent excellente, on a l'impression aujourd'hui que le couple Bigard-Bénichou se jauge sans trop vouloir s'affronter. On en est encore à la phase d'observation. L'avenir risque d'être intéressant. Très bonne idée d'accueillir Bigard. Pendant des années, je l'ai trouvé insupportable. Et puis, en l'écoutant dans des entretiens, j'ai appris à l'apprécier. Bien. Des raisonnements très sains, des grandes valeurs, une grande répartie et une grande intelligence.
Ouais, merci, monsieur. C'est depuis combien de temps qu'il a changé, monsieur?
Ça y est, c'est parti.
C'est fou ce qu'on devient quand on vieillissant. Ben non, mais qu'on mette sur le même plan que ce génie me semble vraiment une trop grande indulgence. Continuez.
Si vous voulez bien demander, c'est Jean-Christophe qui m'envoie ce mail, si vous voulez bien demander à ma collègue Magali de bien vouloir arrêter de me parler de manière à ce que je puisse écouter tranquillement votre émission. Ben voilà, Magali, lâchez-le, Jean-Christophe. Et puis, quelqu'un qui me dit, ah, là, Pierre, pardon, mais c'est un témoignage qui vous accable une fois de plus. Avec
on peut... Et ce qu'il a fait avec sa Velsatis.
Ah, bah oui, en plus, c'est avec sa voiture. Ah, fait qu'on est, maintenant, vous êtes obligé d'avoir un comportement correct n'importe où, dans Paris ou ailleurs, Pierre.
Pourquoi?
La France vous observe.
Non.
J'ai eu la chance d'assister à votre émission, me dit Thierry, il y a 2 semaines. En sortant, je suis allé boire un verre à la terrasse d'un bar jouxtant les studios d'Europe 1. Ouais. Devant ma table trônait une magnifique Velsatis. Monsieur Bénichou est apparu, a enlevé les dépliants publicitaires qui tenaient sous ses essuie-glaces avant et arrière et les a prestement jetés à terre.
Non.
Est-ce bien raisonnable de la part d'un homme que la France entière admire? Se demande l'auditeur.
C'est tout.
Ah, vous avez eu peur que c'était, ce fût plus
non, ça, j'aurais prison avec sursis, j'aurais qu'un mois ferme.
Non, mais ça se fait pas quand même, la pollution. Les écolos, les verts se battent pour qu'on ait un Paris propre, Pierre Bénichou.
Ah oui, mais en attendant, sa voiture doit être plus propre que la mienne. Et moi, je garde tous les prospectus, hélas. Si. Parce que je n'ose pas les jeter par terre.
Mais jamais vous mettez les essuie-glaces en marche quand il pleut? La menteuse.
Non, je les enlève avant, je les mets dans la voiture en disant je les jetterai plus tard.
C'est bien. Voilà. Alors, comportement
en même temps, Pierre, de son côté, il donne du travail à des gens, quoi. Enfin, parce que si les rues étaient, tout le monde faisait attention, il y aurait pas d'agents de propreté, puisque les rues seraient propres.
C'est vrai. C'est pour ça que je fais chier mon chien partout. Moi, je me dis toujours tiens, ça va créer de l'emploi. Mais enfin non.
T'as des raisonnements étranges aujourd'hui, mon Stevie.
Chaque fois que je pique le sac d'une vieille, je me dis tiens, voilà du boulot pour un flic.
Exactement ça.
Où tu vas avec ton raisonnement?
Non, mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui?
Je suis levé du pied gauche.
Tu sais, il y avait une phrase de Churchill que je trouve absolument formidable. C'est un type qui c'était un membre de son cabinet. Pourquoi? Qui avait été soupçonné d'avoir piqué des sous, enfin pris des sous dans une affaire. Et il avait dit, pour se défendre, il avait dit à Churchill, mais écoutez, mais c'était évident qu'il fallait prendre cet argent. Si je l'avais pas fait, un autre l'aurait fait. Il dit, avec un raisonnement comme ça, on baise sa sœur.
C'est joli. Tiens, alors parlons justice, justement, avec la libération du plus ancien prisonnier de France, Lucien Léger, qui a déjà rejoint la famille de Boulanger, qui a bien voulu l'accueillir dans le nord de la France, pas loin de Lille, à Landas, exactement. Il a passé sa première journée, nous dit le Parisien aujourd'hui, à défaire ses cartons, contenant quand même 1800 kilos de livres. Ça m'épate. Alors, 1800 kilos de livres, c'est possible, ça? Il n'y a pas une erreur, 1800 kilos. En cellule, on peut mettre 1800 kilos de livres
en 40 ans.
1800 kilos de livres, il faut que ça soit 4500 livres à peu près. 4500 livres, c'est une grande bibliothèque. Hein.
Ah oui.
C'est pas la plus grande bibliothèque de France, comme disait Mitterrand, mais c'est une grande bibliothèque, quand même.
Je crois qu'il y a erreur. C'est pas possible qu'il ait. Enfin, en tout cas, toujours est-il qu'il a été libéré. Et bon, alors après, on peut être contre, pour la libération après combien 40 ans
hein, Il avait fait quoi
Ah, mais il avait
tué un enfant
d'une façon absolument atroce. Ouais.
Alors, il a passé plus de 41 ans en prison. C'était le prisonnier le plus ancien, non seulement de France, je crois,
mais d'Europe aussi.
Alors bon, après, on est pour ou contre sa libération après 41 ans de tôle. Ça, c'est un débat. Je ne sais pas si on peut l'avoir ici après-midi. Mais moi, il y a un truc qui me choque, c'est pourquoi il répond aux journalistes. Voilà. Est-ce que, après tout, la discrétion dans ces cas-là n'est pas la meilleure des attitudes à avoir? D'autant que c'est limite, parce que vous voyez, c'est vrai que bon, forcément, on est allé. Les journalistes font aussi leur métier, vous me direz. Mais les journalistes sont allés hier, avant-hier, interroger le village pour savoir et connaître les réactions des habitants du village dans lequel il allait être accueilli. Alors, on a vu, lu ou entendu des mères de famille dire « Ah, mais je laisserai pas sortir mes enfants. On va plus oser sortir les enfants dans la rue. » Et lui, évidemment, il répond à ça aujourd'hui. Mais était-ce utile? Il dit, les gens d'ici n'ont pas de crainte à avoir, les parents peuvent laisser leurs enfants trotter partout. Et je trouve que c'est malsain ce dialogue engagé, non Pierre Benichoux?
Bien sûr que c'est malsain, tout ça est horrible. Et en même temps, est-ce qu'on peut garder plus de 40 ans l'homme dans une prison?
Quand il a été condamné à perpétuité,
Non.
La mère de la victime est encore en vie. J'imagine que ça a dû être le jour le plus atroce de sa vie de voir cet homme sortir libre alors qu'elle a enterré son fils il y a 40 ans.
Je l'ai connue, la mère de la victime. C'est une femme absolument charmante qui était assistante d'un dentiste chez qui ils allaient et qui était une femme absolument merveilleuse, désespérée, courageuse et tout. Et elle avait un mari, Monsieur Taron, parce que le petit s'appelait Luc Taron,
exact.
Qui avait juré que il tuerait ce type quand il sortirait. Donc jusqu'à la mort de cet homme, on pouvait pas le faire sortir ce moment-là. Et je comprends très bien que le père ait eu envie de le tuer. Je comprends très bien. On comprend tout dans ce genre de drame horrible. Mais comme vous dites, la seule chose qu'on pourrait empêcher, mais comment, je ne sais pas, c'est qu'il aille dire les enfants peuvent trotter. Non, mais sérieusement.
Mais oui, là, franchement, c'est un dérapage.
Et on voit ce type qui était un peu un petit voyou, qui faisait ça pour l'argent, qui était comme ça, qui avait même pas de pulsion sexuelle, hein, et qui est là, qui est on a l'impression d'un vieux comptable, très, très vieux, je sais, parce qu'il a moins.
À la différence qu'il se dit, il se dit aujourd'hui innocent, hein. Il dit évidemment qu'il n'a jamais tué personne.
Non.
Ah oui, bien sûr.
Si, mais il avait.
Il dit qu'il n'a pas tué l'enfant.
Ah non, oui. Bien sûr, il dit, je n'ai jamais tué personne.
Mais il avait avoué 71 fois. Avant.
Il a avoué tout le temps.
Christine Ockrent.
Non, enfin, c'est une histoire atroce parce que on entendait sur les différentes radios les réactions des habitants de ce village, donc qui ont des enfants. On comprend très bien le. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué dans le même genre, c'est qu'il y a une radio, si j'ai bien compris, et un journal qui avait été averti, j'imagine par la chancellerie ou par la direction de la prison, de la sortie. Donc il y a eu une espèce d'exclusivité des images, en tout cas, pour la sortie de cet homme. C'est-à-dire que on en est à une telle médiatisation, c'est la pipolisation de la prison. C'est baf.
Mais je crois que ça, Christine, ça a toujours existé, moi. Je crois. Pour les grands assassins, pour les grands faits divers. C'est, la pipolisation maintenant, c'est que n'importe quel chanteur qui a gagné un radio crochet devient aussi important que le général de Gaulle. On lui fait le Gaulle de Lyon, par exemple. Il y avait un stade qui devait s'appeler le stade Lamartine. Ils ont dit non, ça s'appelle comment il s'appelle Cocu
Coupé.
Ça sera le stade Coupé. Alors on dit est-ce que Lamartine c'est mieux? Vous attendez qu'ils fassent la plaisanterie, la décision du conseil municipal est tombée dans le lac. Mais non, mais ça ne s'est pas fait. Bon, mais là on peut penser que cette surmédiatisation est ridicule. Mais souviens-toi, Madame de Loudun, souviens-toi Landru, souviens-toi de tous ces grands assassins. Ça a été une médiatisation qui était encore beaucoup plus grande à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de la médiatisation des petites vedettes du music hall. Tu comprends? C'était déjà de très très grandes vedettes, les assassins. Ça a toujours été.
Est-ce que ce n'est pas la raison d'ailleurs pour laquelle certains deviennent assassins?
On le dit. Hein, c'est une thèse possible.
Son quart d'heure de
gloire. Ouais.
Passons à la nuit blanche. J'imagine, Pierre, que vous avez fait tous les arrondissements de Paris samedi soir pour participer à cet événement.
Non, il m'est arrivé une aventure que je voulais vous raconter et que je raconte en public si ça vous amuse.
Je savais pas.
Je reçois un coup de téléphone.
On va voir.
Je reçois un coup de téléphone l'autre jour. Je l'avais encore hier sur mon. Allô, bonjour monsieur, c'est Jacqueline Durand. Oui, je travaille pour Paris Première. Oui, alors on voudrait vous faire venir dans le sens. C'était jeudi soir. Ils avaient dû trouver personne d'autre pour être notre cicérone, notre guide. Elle dit pas notre cicérone. Elle dit plutôt notre, bon, notre guide pour samedi. Alors, je dis pourquoi? Elle me dit parce que c'est la nuit blanche. Alors, comme on sait que vous êtes un grand fêtard. Je dis quoi? Non, mais comme on sait que vous êtes un grand fêtard. Alors, je me rappelle, je dis, qu'est-ce que ça veut dire un grand fêtard? Vous faites de la télévision, vous savez pas qu'on vous avait pas appris à parler le français, non? On dit pas à quelqu'un, vous êtes un fêtard. On dit, vous aimez la nuit, quel noctambule, quel
brillant. C'est pas Gérald Darmon.
Vous êtes un grand fêtard. Alors, j'ai dit, va te faire foutre. Bon, évidemment, je suis pas allé. Et donc, je suis resté chez moi en disant, le fêtard est au lit.
Oh bah, c'est vrai que c'est curieux, vous qui êtes un vrai noctambule.
Voilà, mais pas, tu dirais pas un grand fêtard, c'est la chose la plus péjorative du monde.
Paris organise une nuit blanche et vous restez chez vous.
Bah oui, parce que j'en ai tellement, il faut bien que je laisse sortir les autres.
Vous avez fait, vous, la nuit blanche, Christine?
Moi, j'ai fait comme Pierre, je suis restée chez moi. Ah non, pas du tout, d'ailleurs, j'ai fêté. Non, je suis sortie, mais pas en blanc.
Oh, enfin, c'est louche, ça, encore.
Elle était chez elle, mais elle y était pas.
Non, j'y étais pas du tout.
T'étais chez Briani?
Elle nous cache des trucs en ce moment, hein, Christine O'Crane.
Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment.
Ouh là là, il y a Anguille sous roche, moi je dis.
Ça doit être ça. Ouais.
On lui propose. Vous étiez déjà à Paris de retour, Jean-Marie Bigard?
Non, j'étais pas de retour. Moi, j'étais toujours à Mougins, dans mes quartiers.
Ah, c'est vrai que vous avez inauguré un restaurant, vous.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Qui s'appelle?
Il y avait une belle fête, hein, le Feu Follet.
Le Feu Follet.
Une belle fête. Et moi, j'avais invité tout le village. Et ça, ils avaient jamais vu ça, les gens du village de Mougins. Et donc, il y avait 1000 personnes devant le resto. C'était très, très, très sympathique. Et voilà.
On peut faire de la cuisine pour 1000 personnes.
Bah, là, c'était des petites choses, quoi. Et puis, plein de
saucisses de cocktail.
Et c'était très joyeux.
Qu'est-ce qu'il y a comme à la carte de votre restaurant, Jean-Marie?
La carte, les artichauts Barry Gould, formidable. Et puis je vais mettre des plats à moi, des plats de ma grand-mère, l'omelette aux coquillettes, par exemple.
Non.
Avec un petit tapis.
C'est quoi l'omelette?
Avec un petit tapis de ratatouille en dessous que le chef m'a préparé. Donc c'est des petits plats.
Ça donne envie, l'omelette aux coquillettes.
L'omelette aux coquillettes, c'est génial, avec un petit filet d'huile, de vinaigre, je veux dire, un petit filet de vinaigre ou de citron même, c'est génial, l'omelette aux coquillettes.
C'est représentatif d'une région de France?
Non, c'est quand il reste des coquillettes. Et ben, tu casses un œuf dedans et ça fait une omelette aux coquillettes.
Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Se gêner, la suite avec Christine O'Krent, Jean-Marie Bigard, Stevie Boulet, Caroline Diamant, Pierre Bénichoux. Alors, il y a un autre sujet polémique en ce moment, c'était déjà dans Libération hier, La Croix reprend l'info ce matin. Selon une étude épidémiologique ayant porté sur 17 000 dossiers d'accidents mortels de la route entre septembre 2001 et octobre 2003, donc sur une période assez longue, l'alcool tue davantage que le cannabis. Alors, le gouvernement serait gêné par cette étude qui relativise le danger du cannabis par rapport à l'alcool au volant. Un pétard fumé avant de prendre le volant serait moins dangereux que quelqu'un qui aurait trop bu avant de prendre le volant. Alors, on a envie de dire, bon, très bien, mais en même temps, est-ce que ceux qui ont fumé un pétard n'ont pas en plus généralement bu petit peu? Oh, comment ça, oh non?
Non, c'est pas obligatoire. Ce sont deux catégories de Français très différentes.
Oh, c'est pas vrai.
Et deux cultures très différentes.
Vous croyez que ceux qui fument des pétards ne boivent pas?
Non, je ne dis
forcément.
Pas qu'ils ne boivent jamais, mais ce sont les jeunes gens qui...
Oui, le mariage n'est pas très heureux, c'est vrai.
C'est pas très heureux, et les jeunes gens, les jeunes qui boivent, je ne dis pas qu'il faut fumer des pétards du tout, je dis qu'il faut boire, je dis qu'il faut faire les deux. Je dis que ça va pas tellement ensemble.
Et moi, je serais pour que ça soit interdit au moins de 18 ans, quoi. Un truc comme des produits, par exemple, qui sont interdits au moins de 18 ans. Non, parce que ça ruine bien la scolarité des gosses. Parce qu'on a tous dit, ouais, le pétard, c'est rien, c'est gentil. Non, c'est pas gentil du tout. Tous les gosses qui ont fumé des pétards à partir de 13-14 ans ont tout simplement massacré leur scolarité. Parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ensuite, tu te lèves le matin, t'allumes un pétard. Et là, ça va pas bien, bien à ce moment-là de sa vie où il faut essayer d'apprendre et se faire une situation. Je trouve vraiment que sans passer pour un vieux con, mais ça serait bien de limiter, quoi, que les mineurs.
Bah oui, mais on essaie de limiter encore plus, parce que c'est un tabou à tout le monde.
Malheureusement, c'est interdit à tout le monde.
Mais bien sûr.
Bien sûr, mais c'est totalement inefficace.
Mais alors pourquoi tout le monde en a?
pourquoi tout le monde en fume partout?
Ça c'est autre chose, mais c'est
parce que la répression ne marche pas.
Oui.
Ouais.
Mais normalement, ni les moins de 18, ni les plus de 18 ne devraient en consommer. C'est totalement interdit.
Christine, ça vous est arrivé, juste pardon de cette question indiscrète, mais je vous ai jamais vu le faire. En tout cas, je vous ai vu fumer le cigare. Ça vous est déjà arrivé de fumer un petit pet comme ça?
Ah, ça m'est arrivé, oui, mais j'aime pas ça du tout. Ah, donc, j'ai ça a aucun eu mérite.
Quel effet sur vous?
Assez désagréable. J'ai plutôt eu la nausée. J'ai trouvé ça pas agréable
du tout. Une tête verte, comme on dit.
Peut-être, oui.
j'ai fait une tête verte, c'est pour ça que je suis incapable de fumer. Et ça, chaque fois qu'on me propose, un coup, on m'a dit, c'était avec mes petits gremlins en tournée. Et puis, ils disent le soir, bon, on est dans la chambre d'hôtel et tout. Et puis, il y en a un, il me tend un truc, il me dit, fais gaffe, c'est fort. Très, très fort. Je dis, ah bon, très fort. Hop, je tire un coup dessus, un deuxième, et je dis, bon, allez hop, je vais me coucher. Le temps que je fasse le couloir, je rentre dans ma chambre, j'ai le temps juste de me foutre à poil sur le lit, je prends la zapette, j'allume, documentaire animalier, et là, je me retrouve coincé, trempé de sueur, incapable de changer de chaîne, incapable de mettre la couverture sur moi. Le cauchemar total, ça a duré deux heures de cauchemar où j'attendais que ça s'arrête. Je dis, c'est quoi que tu m'as donné?
Ah,
il y a des
fort.
Trucs terrifiants, quoi, hein. Tu fumes deux lattes et tu te retrouves sur le dos. Je voulais creuser le plancher pour me cacher dessous. J'étais absolument convaincu que j'allais mourir. Ça, de toute façon, c'était acquis. J'allais mourir. Ce qui m'emmerdait le plus, c'était de mourir à poil sur mon lit avec la zapette devant et incapable de changer de chaîne. J'étais dans la télé et tout. J'étais complètement décalqué, quoi. Alors là, la perte du contrôle, moi, c'est pour ça, c'est le genre de truc qui me convient pas.
En revanche, pour prendre le volant, croyez-moi, c'est pas dangereux, ils le disent.
Ah bon?
Allez, on se retrouve après une page de pub, à tout de suite.